Fatalitas, chapitre 9. Chéri-Bibi et Pallas. Le lendemain matin, quand, par la porte entr'ouverte de sa cabane, Chéri-Bibi vit venir à lui la silhouette de son Pallas, il se sentit tout frissonnant d'un orgueil bien compréhensible. Ne l'avait-il pas débarrassé de ses pires ennemis? Bientôt, dès qu'il pourrait remuer ses jambes de laine, une dernière expédition lui livrerait le collier, qui prouverait au monde l'innocence de celui qui avait été Raoul de Saint-Dalmas. Ah, la route était déblayée. Maintenant, on respirait un air pur, qui ne risquait point d'être empesté tout à coup par certaines odeurs de bagne que traînaient toujours avec eux ses ennemis du genre humain, qu'étaient l'affreux Arigonde, le repoussant Fric-Frac, le blême le bêcheur et le hideux Caïd, tous défunts, sinon pour la plus grande gloire, car Chéri-Bibi ne faisait point afficher sur les murs ses belles actions, du moins pour la plus grande jubilation intime du protecteur de Pallas. Donc, Pallas s'en venait tout doucement vers l'humble demeure du pêcheur Silvio. Il marchait la tête basse, et Chéri-Bibi ne put voir sa physionomie que lorsqu'il fut à quelques pas de lui. Tout de suite, il fut frappé par un air de désolation qui le surprit plus qu'on ne saurait dire. Lui qui avait préparé son plus engageant sourire, le sourire de Chéri-Bibi, en resta tout pensif. Le plus inquiétant était que Pallas ne disait rien encore. Il serra la main de Chéri-Bibi et se laissa tomber sur un escabeau, sans même demander des nouvelles de la santé de son ami. Chéri-Bibi, de plus en plus angoissé, ferma sa porte et demanda sur le ton le plus tendre à Pallas ce qu'il avait. « Il y a que je suis à bout de lutte !» laissa tomber Pallas avec un grand soupir qui porta l'émotion de Chéri-Bibi à son comble. « À bout de lutte ? Contre qui ? Contre quoi ?»« Il y a que par moments, » continua Pallas, « et je ne te cache pas, Chéri-Bibi, que je suis dans un de ces moments-là. Je regrette le bagne. » En entendant ces mots, le bandit se leva si brusquement qu'il renversa tout l'échafaudage sur lequel reposait l'équilibre de son poil et son organisation tuyautière. Ce fut un beau tapage et un grand encombrement dans la petite pièce. Mais Pallas était tellement entrepris par ses sombres pensées qu'il sembla ne s'être aperçu de rien et ne tressaillit même point. Chéri-Bibi avait croisé les bras au centre de tout ce tohu-bohu et demandait, d'un air qu'en dépit de cet incident ridicule, il tendait de rendre triomphant. « Est-ce que le Parisien, le bêcheur, Fric-Frac et le Caïd ne te laissent pas maintenant bien tranquille ?» Pallas secoua la tête. « Possible, » fit-il d'une voix sourde. « Mais écoute bien, Chéri-Bibi. Gorbio aussi connaît mon secret, et il est venu me menacer jusque chez moi, pas plus tard qu'hier. »«
Ah oui, vraiment ?» rugit Chéri-Bibi. « Celui-ci aussi connaît ton secret. Eh bien, tranquillise-toi. Il ne sera pas plus difficile de te débarrasser de Gorbio que du Parisien et de sa bande. »
Pallas, en entendant ces mots, était devenu pâle comme un linge. « Que veux-tu dire ?» Et il se leva en regardant Chéri-Bibi jusqu'au fond des yeux. Chéri-Bibi ne saisit pas tout d'abord le sens du mouvement de Pallas. La question que celui-ci lui posait s'accompagnait d'une émotion qui le trompa même tout à fait. Ce « que veux-tu dire ?» lui parut tout tremblant d'espoir sur les lèvres de Pallas. « Que veux-tu dire ?» c'était sous-entendu « Est-il bien possible que tu m'aies réellement débarrassé à tout jamais du Parisien et de sa bande, et que tu sois prêt à en faire autant pour ce Gorbio qui me gêne ?» C'est donc avec un sourire des plus satisfaisants que le bon et redoutable Chéri-Bibi répondit, tout en soulignant d'un clignement d'œil sa pensée. « Je veux dire que Gorbio non plus n'est pas à l'abri des accidents. » Mais il n'avait pas achevé cette phrase que Pallas, qui cette fois avait tout compris, car il connaissait son homme,
s'écartait de Chéri-Bibi en chancelant d'horreur.
« Tu as fait cela ? Tu as fait cela ?
Eh bien, oui, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu as ? Tu ne vas pas te trouver mal ?»
Mais Pallas reculait toujours, la main en avant, comme pour se parer du contact de cet homme terrible qui, inconsciemment, l'avait fait son complice, complice de ce crime nouveau, formidable. À cause de lui, cet homme avait tué. Pallas avait cru à un accident, providentiel, à un hasard. Un hasard. Il s'appelait Chéri-Bibi le hasard, et il avait massacré Arigonde, Fric-Frac, le bêcheur, le caïd. Et il ne demandait qu'à continuer le hasard. Chéri-Bibi, complètement effaré par l'incompréhensible attitude de Pallas, se pencha sur lui comme sur une énigme indéchiffrable, et il répéta même, dans un bredouillement, « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ne m'approche pas ! Ne m'approche pas ! Ne me touche pas !» Pauvre Chéri-Bibi qui s'attendait à des félicitations. Tout à coup, il fut foudroyé par cette pensée que Pallas n'était pas content. Alors il eut une vraie colère d'enfant. « Ça, par exemple, ce serait trop bête. Tu ne vas pas les regretter. » Et comme l'autre se taisait, écrasé par l'idée trop lourde de ce quadruple assassinat, « C'était des bandits !» jeta Chéri-Bibi dans un geste magnifique. « Et nous, qu'est-ce que nous sommes ?» À ces mots, Chéri-Bibi, qui avait une si haute opinion de lui-même et qui croyait l'avoir fait partager à Pallas, crut que ce dernier était devenu subitement fou, et il traduisit sa pensée intime en frappant à deux reprises son large front de son index noueux. « Mais tu ne vois donc pas, » reprenait Pallas haletant, « tu ne vois donc pas que tu me fais horreur, Chéri-Bibi. Chéri-Bibi, tes mains seront donc toujours rouges de sang. Tu m'as fait ton complice. Ton affreux destin pèse sur moi. Je ne veux plus voir ton visage. Tu me soulèves le cœur. » Cette dernière phrase, plus particulièrement, fut sensible à un homme qui avait tant fait pour Pallas. Être traité ainsi par son ami le plus cher, auquel on a donné tout le sang des autres. Chéri-Bibi se redressa dans une attitude de grave dignité et répliqua avec une ironie suprême : Monsieur Daumont, je constate avec regret que, quoi que je fasse, je ne puis réussir qu'à vous offenser. Oui, je sais que je renferme tous les vices. Le pire des hommes à côté de moi est blanc comme neige. Défunt Arigonde lui-même n'était qu'un agneau, si l'on jette un regard sur mes méfaits sans bornes. Moi, je trouble tout. Je serai capable, comme dit l'autre, d'apporter la concorde dans l'enfer. Et voilà que j'apporte l'enfer dans le cœur d'un honnête homme. Pardon, Pallas. » À l'amertume avait succédé une réelle douleur. C'est presque en pleurant qu'il soupira « Pardon, Pallas !» Mais Pallas était déjà loin, fuyant cette tanière maudite. Alors, resté seul avec son désespoir, Chéri-Bibi s'arracha les cheveux dans un vrai délire. « Fatalitas ! » hurlait-il. « 3 fois Fatalitas !» Et du même coup, tout l'humble argot du bagne lui remonta à la gorge. « Je défargue le plancher des vaches de 4 godins et je suis engueulé comme si j'avais chouriné 4 enfants de cœur. Je débarrasse la terre de 4 bandits et je suis traité comme si j'avais assassiné 4 honnêtes gens. » Il montra le poing au ciel, ce qui ne lui arrivait que dans les très grandes occasions. « Vous l'avez entendu ? Ta vue me soulève le cœur. Je ne peux plus voir ton visage. Sang et tripes ! Mon saladier dégoûte monsieur. Nous verrons si tu feras encore ton pâte-à-gueule, ton dégoûté, quand je t'amènerai le collier de la danseuse pour blanchir le grimoire des mouches. » Ton casier judiciaire. Et Chéri-Bibi, éperdu et une fois de plus sublime, cherchait le bâton qui devait soutenir son pas encore chancelant dans l'expédition dont il espérait voir sortir triomphante l'innocence de l'ingrat.
Aussi, le docteur Ross, qui sur ses entrefaites entrait dans sa bauge, fut-il bien reçu quand il émit l'idée de procéder à un pansement nécessaire.
« La médecine aux chiens !»
lui glapit Chéri-Bibi sous le nez. « Garde tes purges et tes emplâtres pour la civilisation, comme dit l'autre. Guéris-la si tu peux avec tes onguents, à chacun sa manière. Moi, je soigne la société. Je soigne la société comme je peux. Avec ma pince, monseigneur. Et aussi, quand il le faut, bouge-toi les cliquettes, Pallas. Avec mon couteau, dans une gaine de chair, jusqu'au manche. »
Chapitre 10. Cartes sur table. Ne sortir d'un gouffre que pour retomber dans un autre est une gymnastique épuisante, même pour les natures les plus robustes. Nous pouvons dire que peu d'hommes auraient été susceptibles de supporter la somme d'émotions qui avait assailli Pallas depuis qu'il avait cru toucher au seuil d'une vie nouvelle. Des années de bagne lui avaient trempé l'âme, mais encore celle-ci fléchissait-elle par moments, et eût-elle succombé tout à fait, si, à travers tous les avatars d'une existence de mensonges et d'horreurs, la lueur soudaine venue des perles de Ninanoa n'avait apporté dans sa sombre nuit un espoir. Et c'est à cet espoir-là qu'il retournait. Les nouveaux coups portés par Gorbio, l'horrible confidence de Chéri-Bibi, tout ce qui venait ajouter à sa détresse morale ou précipiter son malheur, le rejetait à nouveau vers la danseuse et son collier. Si le salut n'était pas là, il n'était nulle part. Une première fois, Nina lui avait menti, il n'en doutait plus. Il fallait savoir pourquoi. Détenait-elle une partie de la vérité? En tout cas, ce collier, coûte que coûte, il le reverrait. Il était décidé à tout pour cela. Plus on le lui cachait, plus l'espoir qu'il représentait l'attirait tyranniquement, farouchement. Nina le reçut, cette fois, avec une impatience narquoise. Mais il ne s'en émut pas. Lui aussi avait le front sombre, chargé d'une volonté obstinée. « Oui, madame, je reviens vous parler de ce collier. Pourquoi ne pas me dire où il se trouve ?» Il avait renoncé à tout subterfuge. Ainsi, il pensait surprendre Nina et l'acculer à une explication définitive. Il fut servi immédiatement. « Vous êtes bien curieux, monsieur Raoul de Saint-Dalmas. » C'est à peine s'il tressaillit. Que de fois s'était-il demandé depuis sa première visite « M'a-t-elle reconnu ?» Et que de fois s'était-il dit « Il vaudrait peut-être mieux qu'elle m'eût reconnu. » Il ne baissa pas la tête. « Oui, Nina, c'est moi, » fit-il. « Puisque vous m'avez reconnu, peut-être aurez-vous pitié de moi. » Ainsi parlait Pallas, et sa voix tremblante d'un espoir insensé s'était faite si suppliante qu'un autre cœur que celui de Nina en eût été certainement ému. Mais l'égoïsme passionné de la courtisane ne laissait approcher la douleur que pour s'en repaître. Nina n'avait plus besoin des explications de Pallas pour tout connaître du malheur dans lequel il se débattait. D'abord parce qu'en partie ce malheur était son œuvre, ensuite parce que Gorbio l'avait suffisamment instruite du reste. Elle n'ignorait rien de ce qui s'était passé la veille au soir à la Villa Thalassa. Et c'était une jouissance infinie pour elle que de voir son ancienne amie, traquée par Gorbio, accourir à elle, comme à une ressource suprême contre ce même Gorbio avec qui elle avait parti liée. Comme elle les tenait tous les deux, et avec quelle belle tranquillité elle présidait, impassible et curieuse, à ce drame farouche dont elle était le centre redoutable. Cette cruauté, toute naturelle chez Nina, n'avait pas besoin d'être alimentée par de justes causes. La danseuse n'avait aucune raison de haïr un homme qui s'était ruiné pour elle et qu'elle savait innocent du crime qu'il avait retranché pendant 6 ans des vivants et qui le faisait maintenant se cacher sous le masque héroïque de Didier Daumont. Elle aimait la souffrance des autres pour elle-même, et il faut bien avouer que celle-ci était d'une qualité supérieure.
pour qui aurait observé cette femme dans le moment qu'elle s'étendait nonchalamment sur sa chaise longue, fixant d'un regard oblique le malheureux qui lui adressait une si ardente et si désespérée prière, il n'y aurait pas eu de doute que cette scène avait surtout un sens de volupté. Avec quel raffinement Nina faisait durer le plaisir. « Est-il possible ?» dit-elle en ramenant les plis de sa robe sur ses jambes qui autrefois avaient affolé Raoul de Saint-Dalmas. « Est-il possible que M. Didier Daumont, le gendre du tout-puissant M. de la Boulay, ait besoin de la pitié de quelqu'un ?» Pallas s'écria. « Oui, il a besoin de la pitié de tous, depuis que Raoul de Saint-Dalmas vous a aimé, Nina. » Depuis que vous l'avez fait si atrocement souffrir au temps lointain de sa stupide jeunesse, et surtout, Nina, surtout depuis qu'il a été frappé pour un crime qui n'est pas le sien. Nina, Nina, vous ne m'avez jamais aimée, mais vous saviez quel honnête petit garçon j'étais quand vous m'avez connu. Vous savez bien, vous, que j'étais incapable de faire le mal, et que je ne suis pour rien dans la mort de Reynaud. Je vous le demande, Nina. « M'avez-vous jamais cru coupable ?» Il était devant elle, pantelant, haletant, plaidant sa cause comme devant un juge suprême d'où allait dépendre son honneur et sa vie. Il fallait qu'il eût cette femme avec lui, cette femme qui savait d'où venait le collier, cette femme qui n'avait peut-être qu'un mot à prononcer pour le sortir de l'abîme. « Nina, m'avez-vous jamais cru coupable ?» répéta-t-il dans un sanglot où passait son martyre de 10 années et toute la douleur du moment présent. Elle répondit d'une voix langoureuse, presque tendre, pas tout à fait plaintive. « J'ai cru que vous aviez été plus malheureux que coupable. » À cette réponse qui voulait être ambiguë, mais qui, dans le fait, était loin de l'innocenté, Pallas sentit un froid glacial descendre dans ses veines. Encore une fois, Nina lui échappait. Nina se refusait. Mais il n'abandonna pas cette terrible partie. « Jouons carte sur table, Nina, » fit-il, la voix changée. « Je recherche la preuve de mon innocence. Le collier que vous aviez ressemble étrangement à celui qui fut volé au banquier Reynaud. Est-ce Dieu possible ? » s'écria Nina, jouant admirablement la surprise. « C'est si bien possible que je pourrais affirmer que c'est lui. On en a changé la fermeture et l'on a fait disparaître la perle défectueuse. Mais je l'ai reconnue. « Mais, mon ami, vous êtes fou. Comment voulez-vous ? Ah, comment voulez-vous ? C'est justement cela que je viens vous demander. » « Dites-moi qui vous a offert ce collier, et vous me mettrez peut-être sur les traces du voleur et de l'assassin. » Nina, maintenant, paraissait réfléchir. Sa tête dans une main, elle montrait un visage sérieux, attentif à ce que lui disait sa pensée intime. Pallas attendait, dans une angoisse de plus en plus impatiente. Enfin, elle se décida. « Vous allez savoir, mon cher Raoul. » Elle lui redonnait le nom de leurs amours et Pallas espéra. « Vous allez savoir toute la vérité, car j'ai confiance en vous. » Pallas se jeta à ses genoux, lui prit sa main glacée dans ses mains brûlantes. « Qu'allait-elle dire ? Qu'allait-elle dire ? » Ce mot tant attendu, le sésame qui lui ouvrirait les portes de l'avenir et refermerait à jamais celles du passé, allait-il fleurir sur ses lèvres peintes ? Hélas, hélas, voici ce que disaient les lèvres peintes et menteuses. Ce collier m'a été offert avant la guerre par un prince étranger, et c'est à ce prince que je l'ai revendu par l'intermédiaire d'un neutre.
Son nom ? Râla Pallas.
Vous pensez bien que je ne veux pas risquer d'être poursuivi pour commerce avec l'ennemi et que je ne puis vous dire le nom que vous me demandez. » Pallas s'est relevé. Cette femme se joue atrocement de lui. Tout son espoir se change en haine. Ah, comme il la déteste, cette Nina Noah! Avec quelle rage muette il la regarde, étendue dans sa voluptueuse indifférence. il ne peut plus entendre le son de sa voix qui va dire « Mais, mon cher, vous avez bien tort de vous tourmenter. Personne ne pense plus à cette vieille histoire. »
« Si, moi !» lui jette Pallas, la bouche crispée, les yeux flambants de la haine qui le brûle.
« Moi, j'y pense à toutes les minutes de ma vie, et je suis payé pour y penser. Et j'y penserai jusqu'au jour qui viendra où la lumière sera faite, tout entière, sur cette atroce aventure. Tu entends, Nina ? Tout entière. Et malgré toi, peut-être. »
Elle se redressa à son tour, ses sourcils se froncèrent terriblement.
« Qu'est-ce que cela signifie ? Des menaces ?
Des menaces à moi ?
À moi qui n'aurai qu'un signe à faire pour vous faire retourner au pays d'où vous venez ?»
Pallas, éperdu, passa sa main sur son front en sueur. Il essayait de rassembler ses pensées.
« C'est vrai, je deviens fou. Mais Nina, comment ne le deviendrai-je pas devant vos étranges réponses ?»«
Mes étranges réponses ?
Dites-moi où est le collier ?»
« Hein ? Mais ce collier n'a rien à faire avec le vôtre. »«
Nina, vous connaissez peut-être le nom du vrai coupable. »
La danseuse, cette fois, ne put s'empêcher de tressaillir, mais son émoi fut si rapide que Pallas ne s'en aperçut même pas.
« En fait de coupable, déclara-t-elle d'une voix nette et coupante, je ne connais encore que vous, et rien ne prouve que vous êtes innocent. Je vous prierai donc, si vous tenez à mon silence, de ne plus me dire un mot de tout ceci. Que ce soit entendu une fois pour toutes, monsieur Didier d'Aumont. »
Elle allait sonner pour le faire reconduire, mais Zoé, qui avait frappé, apportait une carte.
« Mon cher, fit-elle à Pallas après avoir lu, c'est monsieur le comte de Gorbio, un de mes bons amis. »
Chapitre 11. Jalousie. Pendant que ces événements se passaient à Nice, Françoise, restée à la villa Thalassa, souffrait d'une inquiétude qui, depuis la veille, n'avait fait que grandir. La terrible scène entre Didier et Gorbio, suivie d'une dépression si singulière chez son mari, dont elle avait pu admirer, dans les circonstances les plus tragiques, la force de résistance morale, ne cessait de la poursuivre. Elle voyait encore le sourire diabolique du comte dans le moment qu'il quittait la villa et qu'elle l'observait sans qu'il s'en doutât. Elle ne pouvait oublier non plus l'attitude de haine et de combat dans laquelle elle avait surpris les deux hommes. Et elle était persuadée que Didier ne lui avait pas dit toute la vérité sur ce qu'il s'était passé entre lui et Gorbio. Pour la centième fois, elle se répétait « Que peut-il bien y avoir encore entre eux ?» Et pourquoi Gorbio, qui avait tant de raisons de ne pas pénétrer ici ? À ce moment, une femme de chambre vint prévenir Françoise que Madame d'Erlan et une amie venaient lui rendre visite.
« Avez-vous dit que j'étais là ? »
Madame d'Erlan a aperçu Madame dans le jardin.
Françoise n'aimait pas Madame d'Erlan. Elle la trouvait méchante, toujours prête à railler celle que l'on croyait ses plus intimes amies, et se plaisante à colporter les plus odieux potins. Cette Madame d'Erlan, du reste, était extraordinairement renseignée sur tout et sur tous, et comme elle avait un esprit redoutable, les uns la supportaient par crainte, les autres par amusement. Elle n'avait jamais amusé Françoise, qui la subissait. Était-ce un pressentiment ? Madame d'Aumont se rendit auprès de Madame d'Erlan avec plus d'ennui et de contrainte que jamais. Cependant, en parfaite femme du monde, Françoise composa son visage et l'entrevue fut tout de suite d'une politesse et d'une banalité charmante. On prit le thé en potinant. Il fut question des fêtes de charité qui ne cessaient de se succéder et pour lesquelles on ne cessait pas de faire appel à l'inépuisable dévouement de ces dames. Françoise annonça que son mari était chargé du programme de la prochaine fête de Simiez. Aussitôt, Madame d'Erlan laissa tomber, en regardant son amie, « Ah, mais c'est donc cela que M. d'Aumont est toujours fourré chez Nina Noah !» L'effet fut immédiat. Bien qu'elle eût tout donné pour que rien en elle ne trahît l'émoi fatal qui la brûla instantanément,
le visage de Françoise s'était embrasé d'une flamme dévorante.
Didier chez Nina Noah ?
Elle trouva un prétexte pour se lever, déplacer un objet. Elle voulait paraître légère et indifférente. La vérité est qu'elle s'accrochait au meuble pour ne pas tomber.
Didier, tout le temps fourré chez Nina Noah ?
Mais ça n'était pas vrai. Mais cette femme mentait. Didier ne pouvait pas aller chez Nina Noah. Nina Noah était la dernière femme dont il put franchir le seuil. Elle le savait bien, elle, Françoise, qui connaissait par cœur les débats du procès de Raoul de Saint-Dalmas. Elle savait ce que cette femme avait été dans la vie de Didier, le mal qu'elle lui avait fait. Elle savait surtout que Didier devait, avant toute chose, redouter d'être reconnu par cette femme. Et il serait tout le temps fourré chez elle. Allons, allons, allons. Ce n'était pas vrai, une chose pareille. Ou alors...
Quand Françoise revint vers Madame d'Erlan, le sang qui l'embrasait tout à l'heure avait fui ses joues, et elle était pâle comme une nappe d'autel. Madame d'Erlan et son amie ne semblaient s'être aperçues de rien et continuaient de converser entre elles, le plus simplement et le plus innocemment du monde.
« Je ne vois pas pourquoi, disait Madame d'Erlan, on ne peut organiser une fête de charité sans la Nina Noah. Il y a beau temps qu'elle a cessé de faire recette. Moi, je la trouve un peu marquée. Qu'en pensez-vous, ma chère Françoise ? » ?»«
Je la trouve encore très bien, » parvint à prononcer Françoise.
L'ami dit « C'est étonnant comme il y a des femmes qui parviennent à se conserver, surtout dans ce monde-là. Comment font-elles ?»«
Elles font la noce, » exprima Madame d'Erlan.
« Ça conserve donc la noce ?»«
Plus que les travaux des champs ou les travaux d'aiguilles, et même que la tapisserie. Voyez les honnêtes femmes dépassant 35 ans. Elles en paraissent 60. »«
Alors, » reprit Madame d'Erlan en se retournant vers Françoise, « Monsieur Daumont a engagé la Nina ?»«
Mais je n'en sais rien, » répondit Françoise d'une voix qu'elle essayait vainement de rendre naturelle.
« Ça n'est peut-être encore qu'un projet. »«
Comment ? Monsieur Daumont ne vous en a pas parlé ?» fit l'ami.
« Alors c'est une surprise qu'il vous prépare. J'habite auprès de la villa que la Nina a louée cet hiver, et voici plusieurs fois que je vois Monsieur Daumont entrer chez elle. »«
Nous venons encore de l'y voir entrer tout à l'heure, » ajouta Madame d'Erlan.
« Ah, mon Dieu ! » s'écria-t-elle tout à coup. « Mais qu'est-ce que vous avez, Françoise ? Nous ne vous avons pas fait de peine, surtout. »«
Quelle peine ? Que voulez-vous dire ?
Mais je ne sais pas, moi. Vous êtes tout à coup si drôle. Vous voilà toute pâle. Vous n'êtes pas jalouse. »«
On n'est pas jalouse d'une Nina Noah, » déclara l'ami.
« Mais c'est une vieille dame, votre Nina. Et quand on est jeune et belle et aimée comme vous... »
« Ma chère, ces nouvelles mariées sont extraordinaires. Nous avons fait de la peine à Madame Daumont. »«
Aucune, je vous assure, » répondit Françoise avec une froideur et un calme terrible.
« Aucune peine, et rassurez-vous, mesdames, je ne suis pas jalouse. »
Madame d'Erlan était maintenant assez embarrassée devant l'attitude glacée de Françoise. Elle ne demandait plus qu'à s'en aller. Du reste, elle n'avait plus rien à faire à la villa Thalassa. Son honnête besogne était accomplie. Elle trouva le moyen cependant de la parachever.
« Je suis sûre, » faisait l'ami, « que si cette Nina n'avait pas tous les bijoux dont elle se pare comme une châsse, on ne la regarderait même pas. Mais les hommes sont si bêtes. »
« C'est au comte de Gorbio qu'il faut aller dire cela, ma chère, » prononça Madame d'Erlan.
« Pourquoi, au comte de Gorbio ?» demanda Françoise dont la tête tournait.
« Comment ? Vous ne savez pas que le comte l'entretient, cette fille ? À ce qu'il paraît qu'il n'a rien à lui refuser. Mais elle non plus, du reste. Et depuis longtemps. »
Elles s'en allèrent. Françoise trouva la force de les accompagner jusqu'aux terrasses.
Elles n'eurent pas plutôt franchi la grille du jardin qu'elles commandaient son auto.
elle claquait les dents. Le jour, ou plutôt ce sombre soir, où elle avait surpris son mari embrassant l'ombre formidable de ce démon de Chéri-Bibi, elle n'avait pas été plus frappée d'horreur. Était-ce possible? Était-ce possible? Son Didier aimait encore, aimait toujours Nina Noah? La courtisane l'avait repris dans ses filets. Toutes les scènes muettes auxquelles Françoise avait assisté depuis quelques jours, ses désespoirs chez Didier, ses rayonnements soudains, ce bonheur inexplicable dans sa situation présente, dans son mensonge présent, cette joie qui l'avait marquée tout à coup la veille en rentrant à la Villa Thalassa et qu'il avait si négligemment expliquée « J'avais quelques ennuis d'affaires, n'en parlons plus ». Tout cela lui venait de Nina Noah, soit évidemment qu'elle l'accueillit, soit qu'elle le repoussa. Horreur, horreur! Les uns s'élèvent par le péché, les autres tombent par la vertu. Françoise, en face d'un pareil crime d'amour et de sa trop grande innocence à elle, pleura des larmes amères sur sa stupidité. Elle comprenait maintenant ce qui s'était passé entre Gorbio et Didier. C'était la jalousie qui avait dressé les deux hommes l'un contre l'autre, jusque chez elle, et non à cause d'elle, comme elle l'avait ridiculement pensé, mais à cause de Nina Noah. Chapitre 12. De quelques événements qui se passèrent chez Nina Noah. Pallas ignorait tout des relations de Gorbio et de Nina Noah. La révélation qui lui en était faite tout à coup par la visite de Gorbio à Nina et par la façon dont la danseuse avait prononcé ce mot « un ami » le jeta dans une stupeur profonde en même temps qu'elle lui faisait entrevoir un nouvel abîme. Nina continuait. « Je sais que vous avez eu des rapports un peu tendus avec le comte. Je crois qu'il serait préférable que vous ne le rencontriez pas. » Étourdi par tout ce qu'il venait d'entendre et par ce dernier coup qui lui était porté, Pallas fut reconduit par Zoé sans se rendre compte des gestes qu'il accomplissait, se laissant pousser dans un escalier de service, et c'est ainsi qu'il sortit de chez la danseuse par une porte que ne franchissaient à l'ordinaire que les domestiques et les fournisseurs. Il traversa le jardin sans entendre un gémissement qui s'éleva sur ses pas et le suivit jusqu'à ce qu'il eût disparu. La nuit était venue, rapide. Quelle autre douleur que la sienne habitait l'ombre autour de Nina Noah? Hélas, c'était celle de Françoise, accourue pour être sûre désormais que rien ne manquait à son malheur. Ne plus pouvoir douter du mal dont il peut mourir semble devoir être un soulagement à l'être le plus courageux que le soupçon effleure, et il n'aura de cesse qu'il ne soit complètement renseigné là-dessus. Aussitôt après, survient la catastrophe qu'il dépendait de lui de laisser en suspens. Mais il aime mieux la subir que la craindre. Ainsi, Françoise, laissant son auto à l'angle de l'avenue, était-elle venue jusqu'à la fenêtre de Nina, et presque dans les massifs du jardin ouvert qui précédait la villa, épier la sortie de Didier. Elle non plus n'était point maîtresse de ses gestes. Sa douleur et le besoin inéluctable de souffrir davantage lui faisaient accomplir les mouvements les plus ordinaires de la plus vulgaire passion. L'amour, à un certain degré, ne connaît plus la séparation des classes, celle qui fait qu'il y a d'une part des gens qui ne doivent pas faire certaines choses parce que cela ne se fait pas, et d'autre part, des gens qui peuvent se permettre les gestes les plus « nature » parce qu'ils en sont encore tout près. Ce gouffre, qui sépare les uns et les autres, creusé lentement par des siècles de civilisation, l'amour a vite fait de le combler. Si elle aime vraiment, il arrivera un moment où la plus grande dame sera surprise écoutant derrière une porte. Françoise était depuis quelques minutes dans le jardin de Nina, haletante, tremblante et brûlante de honte, quand Gorbio le traversa et pénétra chez la danseuse. Françoise avait reconnu le comte. Elle avait eu un mouvement comme pour l'arrêter en chemin. « Le comte va trouver Didier là-haut » il va se passer une chose atroce. »
Elle ne pensa plus une seconde qu'au drame qui allait éclater. Elle courut à la porte, elle était prête à entrer. Et puis tout à coup, elle se dit « Et si Didier n'y était pas ?» Car enfin, il pouvait ne pas y être. Devait-elle ajouter foi à tous les potins de Madame d'Erlan ? Il avait suffi de quelques mots d'une femme, connue de tous pour son méchant esprit, pour que tout le formidable échafaudage de son héroïque confiance en Didier s'écroula sous elle et la laissa pantelante, meurtrie, agonisante, comme une pauvresse d'amour dans les jardins d'une Nina. Et pendant ce temps, son Didier était peut-être chez elle à l'attendre. Dans l'instant où elle allait se précipiter pour l'y rejoindre, car ainsi va, saute à tous les vents de leurs pensées l'amour des femmes, l'off pour l'off, comme disent les marins. Didier sortit de chez Nina par l'escalier de service, poussé dans la nuit par une soubrette complice de cette terrible aventure. Et cependant que Gorbiot, lui, pénétrait chez la danseuse, en maître. Ignominie, abominable désolation au fond de l'ombre. Quand Didier se fut éloigné, Françoise se traîna jusqu'à l'auto. Elle n'eut que la force d'y monter et de jeter l'adresse du Cap Ferrat. Gorbiot n'était pas resté très longtemps chez Nina. Il paraissait fort affairé en sortant. De son côté, Nina, fatiguée sans doute de son entrevue avec M. Daumont, se mit au lit de bonne heure et recommanda à Zoé que l'on ne troublât son repos sous aucun prétexte. Or, elle ne dormit pas. Elle réfléchissait aux nouveaux événements et sans doute à tout le parti qu'elle et Gorbiot allaient pouvoir tirer de leur alliance, exigée par eux, avec le gendre de M. de la Boulaye. Peut-être aussi sa capricieuse pensée la promenait-elle dans ses aventures d'antan, quand le jeune Raoul faisait ses premières folies. Ce qu'elle s'était jouée de lui, ce qu'elle l'avait fait souffrir, comme il l'aimait alors. Elle n'avait pas besoin de menacer dans ce temps-là. Sur un mot d'elle, il se serait jeté au feu. Sa seule présence, un coin de sa chair entrevue, le rendait fou. Et cela ne la faisait pas sourire, la Nina Noah, de constater que sa puissance de séduction avait à ce point diminué, que tous ses artifices ne lui servaient plus de rien au regard de Raoul, devenu l'indifférent Didier Daumont. Cela aussi, cela surtout, il le lui payerait. Elle en resta là de ses réflexions et elle commençait enfin de somnoler quand un bruit étrange attira son attention. C'était comme le crissement d'une lime ou d'une scie sur de l'acier. Cela s'arrêtait par instant et puis cela reprenait. Par moments, cela paraissait assez lointain et puis cela semblait tout proche. Il y avait, à part cela, un grand silence dans l'avenue et dans la maison. Il pouvait être 11 heures au plus tard, pensait-elle. Chez elle, tout le monde devait être couché. Elle n'eut pas peur, mais elle fut angoissée. Les plus braves, et Nina était brave, ne sont pas sans inquiétude dans la nuit en face d'un bruit inexpliqué. Maintenant, le bruit avait cessé tout à fait. Comme il ne reprenait pas, Nina en fut à se demander si elle n'avait pas été le jouet de son imagination. Elle se leva, prit un mignon revolver dans sa table de nuit et entr'ouvrit sa porte. Elle avait l'oreille très fine. Elle perçut le sourd et étouffé murmure de quelques voix au fond de l'appartement. Cela venait du boudoir, où semblait en venir. Elle pensa à s'enfermer dans sa chambre et à sonner, à réveiller tous ses domestiques. Et puis tout à coup, elle eut une pensée singulière, et hardiment, elle se dirigea, sans faire le moindre bruit, vers le boudoir. Brusquement, elle en ouvrit la porte. Il y eut de sourdes exclamations, un commencement de ruée sur elle. Mais elle, de sa voix claire, « Laissez-moi vous ouvrir ce meuble, madame et messieurs, ce sera beaucoup plus simple. » En effet, elle avait tout vu dans une seconde. Une espèce de colosse,
accroupi devant le meuble et travaillant l'acier des ferrures à la lueur d'une lanterne sourde tenue par une femme dont elle ne distingua pas d'abord le visage. Tout près de la fenêtre-balcon, un autre homme faisait le guet.
« Donnez-moi d'abord votre joujou !»
commanda la voix rude de Chéri-Bibi. « Et nous verrons après si on peut s'entendre. » Elle ne fit aucune difficulté pour déposer le revolver sur le meuble. Chéri-Bibi mit aussitôt sa large patte dessus. « Ouvrez le meuble et on ne vous fera pas de mal, » dit-il.
« Vous êtes bien bon, » répliqua-t-elle. « J'ai justement la clé sur moi. Mais on n'y voit pas clair, » fit-elle.
« Je ne peux pas supporter la lumière électrique, » expliqua la grosse voix de Chéri-Bibi. « Mademoiselle vous éclairera. »
« Mais la lanterne tremble dans sa main, » fit remarquer Nina.
En même temps, elle saisissait cette main et dirigeait la lueur sur le visage de la porteuse.
« Zoé ! Madame, ils m'ont menacé de me tuer si je ne faisais pas tout ce qu'ils voulaient. »«
Pauvre fille !» soupira drôlement Nina. « Je vais vous éclairer, moi, » déclara Chéri-Bibi. « Et moins de bavardage, s'il vous plaît. Finissons-en, je suis pressée. »
« Oui, dépêchez-vous, » soupira le tremblant la ficelle sur le balcon. « Voilà du monde !»«
Mais, messieurs, ce n'est pas plus difficile que cela !» Et Nina ouvrit le meuble. Chéri-Bibi se précipita. Aussitôt, on entendit un puissant et désolé « Fatalitas !» Le meuble était vide. Chapitre 13. Deux voix dans la tempête. Nous avons vu comment, pour échapper au coup que lui préparait Gorbio, Pallas était retourné chez Nina dans le fol espoir de trouver auprès de la danseuse une arme de salut. Et c'est Gorbio lui-même qui l'avait rencontré. Cette union, insoupçonnée de lui jusqu'ici, finissait de l'accabler et en faisait un pauvre homme, errant dans les avenues désertes autour de la villa, ne sachant plus ce qu'il devait faire ni où il devait aller, ne se le demandant même point, étant aussi incapable dans le moment de diriger ses pas que la marche de sa pensée. Il avait cru que Nina, pour qui il avait tant souffert, aurait pitié de lui, et qu'après l'avoir reconnue, elle lui tendrait un bras secourable pour l'aider à sortir de l'abîme. C'est elle qui l'y précipitait à nouveau, car il ne pouvait plus douter que ce ne fût elle qui l'avait dénoncé à Gorbio. Et maintenant, qu'est-ce que cet homme voulait de lui? Dans le remous fatal qui entraînait Pallas, le faisant tourner vertigineusement dans un cercle de plus en plus rétréci, au centre duquel se trouvait ce rocher funeste du bagne, d'où il avait tenté, par un effort surhumain, de s'éloigner pour toujours, et sur lequel, au bout de 4 ans, toutes les forces de la société, plus redoutables quelquefois que celles de la nature, le ramenaient inéluctablement dans ce maelstrom où il se débattait, déjà à moitié englouti. Il ne pouvait plus s'accrocher qu'à Gorbio, son plus cruel ennemi. Pauvre, lamentable, pitoyable Pallas. Il était venu chercher le bras secourable de Nina, et celle-ci lui montrait la main de Gorbio. S'il laissait passer cette main, c'était fini de lui, fini du bonheur, fini de Françoise. Mais s'il acceptait le secours de cette main-là, qu'adviendrait-il de lui quand il en subirait l'étreinte? Gorbio, Gorbio, quelle honte pour une âme régénérée au feu de 20 batailles. Dépendre d'un Gorbio. Ah, s'il n'y avait pas eu Françoise. C'était son plus effroyable châtiment, Françoise, comme elle avait été son plus grand bonheur défendu. Dans le ciel pur qu'il avait entrevu, elle avait été sa faute nouvelle. Il avait été brave dans les combats. Il avait été lâche dans l'amour, et aussitôt, il avait été entouré de nuées tragiques. Maintenant, il n'y voyait plus clair. Maintenant, il dépendait de Gorbio. Or, comme il en était là, le corps et l'âme grelottant au fond de la nuit et de sa misère, Gorbio vint à passer.
Il marchait vite, enveloppé d'une longue cape qui lui cachait les bras. Il n'avait prêté aucune attention à ce promeneur solitaire. Il fallut que Pallas s'arrêtât pour qu'il reconnût Didier Daumont. Il eut un brusque retrait de tout le corps.
« Ah, c'est vous ? Que me voulez-vous ? »
« C'est à moi, vous le demandez, monsieur de Gorbiot. »«
Ici ? » ?»«
Ici ou ailleurs, répondez-moi. Où vous voudrez, mais répondez-moi. Répondez-moi le plus vite possible. Vous comprendrez que je ne puis plus vivre ainsi. »
« Je vois que vous vous faites beaucoup de bile, monsieur Daumont.
Vous avez bien tort. Je vous affirme que vous avez tout à fait tort. »
« Encore une fois, je vous prie, je vous supplie de vous expliquer. »
« Mais je n'en ai pas le temps, mon cher. Je prends le train ce soir même pour Paris. À mon retour. »
« un mot tout de suite. Ma vie est entre vos mains. Je ne suis pas un lâche et je ne veux aucune grâce pour moi. » Mais que je sache au moins si je dois vivre ou disparaître, et si je dois vivre, à quelles conditions.
Allons, allons, mon cher Daumont, voilà une bien grande exaltation. Reprenez votre sang-froid, que diable! À mon retour, nous bavarderons de tout cela, et vous verrez que nous serons les meilleurs amis du monde.
Le comte, ayant jeté ces derniers mots, s'enfonça dans la nuit, laissant Pallas plus effrayé de ses promesses amicales qu'il ne l'avait été de ses menaces. Pallas, comme un enfant qui souffre, soupira « Mon Dieu !» Tout d'un coup, dans son désarroi, il vit surgir une ombre à son côté, une ombre connue. «
Voulez-vous remettre un mot au pêcheur Silvio de la part du docteur Ross ?»
En même temps, l'ombre qui n'était autre que celle de Yo-Yo lui glissait une enveloppe dans la main et disparaissait dans la direction suivie par le comte de Gorbiot.
Une commission pour Chéri Bibi ?
Dans sa détresse, ce message mystérieux lui parut de bon augure. En tout cas, il donna un but nouveau à sa pensée. Depuis qu'il avait fui la cabane du pêcheur Silvio, après avoir prononcé des paroles terribles pour une amitié qui ne les méritait pas, car les sentiments et les actions de Chéri Bibi ne pouvaient être appréciés suivant la commune mesure humaine. Pallas traînait au fond de lui un sourd remords. Il avait été bien rapide à condamner des gestes qui n'avaient eu d'autre but que de le sauver, gestes sanglants qui le remplissaient d'horreur, mais dont il n'avait pas le droit d'être le juge impitoyable, lui, le bénéficiaire et l'ami de ce fléau du destin qu'était Chéri Bibi. Et voilà qu'il avait l'occasion de retourner à la cabane du pauvre pêcheur, de celui qui n'était venu sur cette terre que pour le protéger, comme il allait lui ouvrir ses bras et lui demander pardon. Malheureusement, ce soir-là, quand Pallas poussa la porte de la cabane qui dressait ses misérables planches au bord des flots, Chéri Bibi n'était pas là.
« Il travaillait encore pour toi, Pallas, ingrat Pallas !»
Et Pallas, après avoir laissé la lettre, reprit le chemin de la Villa Thalassa, le seul port de refuge dans son éternelle tempête. Françoise était rentrée chez elle, dans un état moral effrayant. Elle s'était enfermée dans sa chambre, après avoir donné l'ordre que, sous aucun prétexte, on ne l'y dérangeât. Elle ne pouvait crier dans la rue. Elle ne pouvait crier devant son chauffeur. Elle n'avait pas à montrer sa plaie saignante à des domestiques. Ah, maintenant, elle peut gémir à son aise, pleurer, étouffer, se meurtrir le sein. Il n'y a pas de souffrance physique comparable à une telle douleur d'amour. D'abord, la douleur d'amour, arrivée à ce paroxysme, est la pire des douleurs physiques. Et la preuve, c'est que la vie du corps devient insupportable. Françoise demande la mort. Elle l'appelle comme une délivrance. Et peut-être cela serait-elle accordée elle-même si elle ne s'était évanouie. Quand elle revint à elle, elle perçut des voix dans le jardin, sur les terrasses. C'était Didier qui venait de rentrer et qui interrogeait les domestiques. Elle reconnut la voix de son mari et elle se reprit à souffrir horriblement. Elle ne pouvait plus entendre cette voix. De même, il lui semblait qu'il lui serait impossible de revoir cet homme.
car elle l'aimait encore, et il en aimait une autre. Son amour à elle, qu'elle avait élevé au-dessus du sublime, lui parut tout à coup une chose honteuse et sale. Elle s'enfuit, le fuyant, lui, et se fuyant elle-même, c'est-à-dire s'arrachant à la Françoise amoureuse qui attendait tous les soirs son Didier et qui ne demandait peut-être qu'à l'attendre encore, pour le plus lâche et le plus abject des pardons, après une explication mensongère. Les vêtements en désordre, le sein nu, comme une bacchante égarée qui pleure son dieu, elle courut dans les jardins lugubres, descendit comme une ombre folle les degrés des terrasses, parvint au rocher et mêla sa plainte farouche au ululement de la mer. Une tempête accourait du fond de l'Orient marin. Françoise s'enfuit dans la nuit et dans la tempête en criant « Didier ! Didier !» Cependant, Didier avait pénétré dans la chambre de sa femme, déjà très inquiet des rapports des domestiques. Le spectacle de désordre qui l'y attendait le fit frémir. Françoise a disparu. Elle s'est enfuie. Des portes entr'ouvertes montrent le chemin de sa course insensée. Il la cherche dans les jardins. Il trouve son écharpe accrochée aux balustres des terrasses qui descendent vers la grève. Et lui aussi s'enfonce dans la tempête avec de grands cris. Il est sûr maintenant que Gorbiot a parlé. Françoise sait tout, et elle a voulu mourir. Ah, comme il la cherche, comme il l'appelle, comme il la demande, sa Françoise, au rocher et au flot de la mer. Françoise ! Françoise ! Mais la tempête engloutit la voix de Françoise. Didier ! Didier ! Chapitre 14. Une amie. L'aurore surprit Pallas sur la grève qui l'avait remplie toute la nuit de ses cris et de son désespoir. Il était persuadé que Françoise s'était noyée, et maintenant il attendait que le jour lui montrât le cadavre de celle qui n'avait pu survivre à l'effroyable révélation. Mariée au numéro 3213. Gorbiot s'était bien vengé. Il pouvait partir pour Paris. Il n'avait plus rien à faire à Nice. Françoise était morte et Pallas allait mourir. Voir une dernière fois le corps adoré de sa femme, l'embrasser, l'étreindre une dernière fois et chargé de ce fardeau funèbre, lui aussi il entrerait dans la mer qui lui donnerait le repos suprême. Avec le jour, la tempête s'était apaisée. Pallas, entre les rochers, cherchait. Un amas d'herbes marines, les formes bizarres que prennent parfois les débris rejetés par les flots guidaient ses pas chancelants. Il se penchait, il tâtait cette plage maudite qui lui avait pris Françoise et qui ne la lui rendait pas. Cette apparition errante attira l'attention des matelots qui conduisaient leur barque vers la pêche matinale. Ils se le montrèrent, ils le hélèrent. Alors il leva la tête et il s'aperçut que la nature calme, oublieuse des fureurs et des drames de la nuit, se préparait à vivre l'un de ses plus beaux jours. Les caps et les promontoires allumaient leurs pierres dorées, et la mer se recourbait au creux des golfes avec son plus doux soupir. Alors il ne put continuer de voir ce spectacle enchanté, qui avait été leur joie à tous les deux, lors de ces heureux matins. Trop rapide, hélas, qui suivaient leur première nuit d'amour. Il hait cette lumière qu'elle ne voyait plus. Il refit en courant, en se heurtant au roc comme un insensé, le chemin qui conduisait à cette demeure d'où elle était partie pour toujours, et où il ne rentrerait que pour y chercher une mort brutale, qui le délivrerait de l'allégresse éternellement renouvelée de l'indifférente nature. Il avait réussi à tromper la curiosité inquiète des domestiques, et déjà, au fond d'un tiroir, il avait mis la main sur l'arme libératrice, quand, derrière les volets clos, une voix se fit entendre. « Pour Monsieur Daumont, tout de suite, c'est très pressé !» À cette heure, une commission pressée. Sa main trembla et laissa retomber l'arme. Son cœur, un instant, s'arrêta de battre. Et puis, la vie lui revint tout à coup devant les explications qui s'échangeaient à quelques pas de lui. « Monsieur, on ne l'a pas revu. Il n'y a personne à la villa. »
Il ouvrit la fenêtre. Il apparut de façon si subite et si sinistre que les hommes reculèrent dans le jardin. Mais déjà sa main s'était emparée du message. Cela venait de Madame Martins. Elle disait « Venez vite, Françoise est chez moi. Elle est folle. Elle croit que vous la trompez avec la Nina Noah. »
« Françoise est vivante. Françoise est vivante. Ah, le soleil peut luire encore. »
Didier crie de bonheur.
Françoise croit qu'il la trompe avec Nina. Ah, le voilà qui rit. Il rit terriblement.
Et puis son rire même s'apaise. Il rit maintenant comme un enfant devant une imagination pareille. Et il pleure. Et c'est en pleurant de joie qu'il s'enveloppe d'un manteau, ne prenant même pas la précaution de changer de harde. Il se jette dans l'auto qui a amené le domestique de Madame Martins. Le voilà chez Madame Martins. Celle-ci vient le rejoindre tout de suite.
« Françoise ! Françoise ! » réclame Pallas.
Et l'autre, en quelques phrases brèves, explique
« Elle vous a vu sortir de chez Nina, et elle est persuadée que c'est à cause d'elle que Gorbiot est venu vous faire une scène de jalousie. »
« Mais c'est fou ! Mais c'est fou ! Vous savez bien, vous, pourquoi j'allais chez Nina ?»«
Oui, je le sais, mais je ne pouvais pas le lui dire. »
« Mais moi non plus, je ne peux pas le lui dire. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Qu'est-ce que je vais lui dire ?»«
Tout ce que vous voudrez. Elle vous adore, elle vous croira.
Ah, mes enfants, vous vous faites bien du mal. Mais dans quel état êtes-vous tous les deux ? Elle a été comme une folle toute la nuit. » Et moi, je l'ai cherchée toute la nuit. Elle pleure parce qu'elle n'a pas eu le courage de se tuer. Elle voulait se jeter dans la mer. Elle m'a dit qu'elle avait essayé, mais que la mère n'avait pas voulu d'elle.
Conduisez-moi auprès d'elle.
Non, allez-y, reprenez-la. Elle m'a juré qu'elle ne vous reverrait jamais. J'ai essayé en vain de la raisonner. Il n'y a que l'amour qui puisse guérir un tel désespoir.
Madame Martins montrait une porte à Pallas. Et Pallas pénétra dans la pièce où Françoise se tenait, farouche et silencieuse, ayant peut-être aussi épuisé ses larmes. Dès qu'elle l'aperçut, elle fut debout avec un grand cri.
« Non, non, pas vous. Allez-vous-en. Allez-vous-en, je ne veux plus vous voir. »
En vain, Pallas, voulant parler, s'accrochait à elle. Elle se débattait, couvrant sa voix de ses cris.
« Je ne vous demande rien, aucune explication, aucune. Vous ne m'aimez pas. Vous ne m'avez jamais aimée. »
« Regarde au moins ce que tu as fait de moi depuis hier soir et répète-moi que je ne t'aime pas. »
Elle le regarda. Il avait rejeté son manteau. Elle le vit dans ses guenilles et dans ses blessures, car il était sorti de cette nuit tout ensanglanté. Elle aussi était pitoyable à voir. Ils se contemplèrent pendant quelques muettes secondes et de commun sanglot les rapprochèrent.
« Pourquoi es-tu allée chez cette Nina ?»«
Françoise !» murmura Pallas. « Françoise, mon adorée, tu as pu douter de moi.
Pourquoi es-tu allée chez Nina ?
Que crois-tu donc ? Tu sais que je t'aime, que cela te suffise. Notre amour serait sinon diminué, du moins sali par une explication quelconque à propos d'une telle femme.
Et tu es allée chez elle ? Pourquoi es-tu allée chez elle ?
Écoute, ma chérie, tu me causes une grande douleur. Tu sais bien pourquoi je suis allée chez elle. Madame Martins a dû te le dire. J'y suis allée pour cette fête de charité.
Tu y es allée plusieurs fois et tu ne m'en as rien dit. »
Elle le regardait de ses yeux brûlés de larmes. La flamme dévorante de la jalousie se rallumait en elle. Elle s'écarta de lui et dit, haletante,
« Didier, tu vas me jurer sur notre amour que tu n'avais pas d'autre raison d'aller chez Nina Noah. Ou plutôt, non, pourquoi jurer ? Je vais simplement te demander ta parole d'honnête homme que tu n'avais point d'autre raison d'aller chez cette femme. »
Il y eut un silence.
« Ah, tu vois ! » s'écria-t-elle. « Tu vois que tu avais une autre raison. »
« Oui, » finit par dire Pallas en baissant la tête. « J'avoue que j'avais une autre raison. »
« Laquelle ? »
« Je ne puis te la dire. »
Ces derniers mots furent prononcés avec une telle douleur que Françoise, oubliant un instant les sentiments affreux qui l'agitaient, en fut frappée. Elle considéra un instant encore cette face qui avait gardé la trace de tant de souffrances,
dont elle n'avait peut-être pas encore pénétré tout le mystère, et elle fut ébranlée. Pallas continuait en secouant la tête. « Ne me demande rien. Ce secret n'est pas le mien. C'est celui d'un homme qui a jadis aimé Nina Noa et qui m'avait chargé d'une importante mission auprès d'elle. Mais toi, toi, comment as-tu pu douter de mon amour ?»«
C'est le secret d'un homme qui a jadis aimé Nina Noa. »
Françoise connaissait cet homme-là. Il était devant elle. Aujourd'hui, c'était elle, Françoise, qu'il aimait. Pouvait-elle en douter, ainsi qu'il le lui demandait? Dans le moment, Madame Martens entra. « Eh bien, ma petite Françoise, la paix est faite. Tu sais bien qu'il t'adore. »«
Oui, » répondit-elle d'une voix grave et profonde. «
Je le crois fermement. Mais je lui demande de ne plus retourner chez Nina Noa. »
Pallas eut un hochement de tête qui promettait. Et Madame Martens reprit, raillant amicalement Françoise,
« C'est très vilain d'être jalouse. »«
Oui, je suis jalouse, » répliqua Françoise.
« Jalouse à en mourir. »
Chapitre 15. La petite maison de la rue de Dunkerque. Le comte Stanislas de Gorbio avait un magnifique appartement, connu de tout Paris, au coin de la rue Le Sueur et de l'avenue Dubois. Ce n'est point cependant vers ce domicile somptueux qu'il se dirigea à son arrivée à Paris. Il avait fait route avec le docteur Ross, rencontré à la gare. Ensemble, ils avaient déjeuné dans le wagon-restaurant. Pas une seconde, le comte n'avait quitté un petit sac sur lequel, chaque fois qu'il pouvait le faire sans être vu, Yo-Yo jetait des regards embrasés d'envie. Ce petit sac contenait le fameux collier. Devant l'insistance de Pallas et le danger que cette insistance représentait, c'était Nina qui avait déterminé le comte, sur le point de partir pour Paris, à emporter le collier avec lui et à le cacher dans un endroit secret, connu d'eux seuls, où ils avaient coutume de dissimuler leurs documents les plus précieux. Comment Yo-Yo était-il au courant de la chose ? De la façon la plus simple. Envoyé en éclaireur par Chéri-Bibi auprès de Nina Noa, quelques heures avant la dernière expédition à la villa de la danseuse, il avait su espionner tous les gestes des intéressés, avec cette astuce et cette ingéniosité qu'il avait rapportée de la forêt vierge et adaptée aux milieux les plus civilisés. Il avait été témoin, derrière une vitre et entre deux rideaux, de la commission donnée à Gorbio. Et, très au courant de ce que tramait Chéri-Bibi contre Nina, il avait pris sur lui de ne plus quitter le comte. En chemin, nous avons vu qu'il avait pris le temps de prévenir Chéri-Bibi par le truchement de Pallas qu'il avait aperçu, errant comme une âme en peine autour de la maison. À la gare d'arrivée, Gorbio et Ross se séparèrent. Yo-Yo constata que personne n'attendait le comte et que celui-ci montait dans un taxi de louage. Yo-Yo offrit la forte somme à un chauffeur qui se mit immédiatement à sa disposition. Quand, au coin du boulevard Magenta et du boulevard de Strasbourg, le comte lâcha son taxi, Yo-Yo fit de même. Le comte remontait à pied vers la gare du Nord, toujours enveloppé de sa pelisse de voyage sous laquelle il portait le sac. Yo-Yo suivit. Bientôt, Gorbio prit la rue de Dunkerque et ralentit le pas. Il avait l'air d'un flâneur, regardant les devantures. Il arriva ainsi devant une vieille petite maison, haute de deux étages, qui s'élevait au coin de deux rues et dont le pan coupé était occupé, au rez-de-chaussée, par un bistrot d'assez mauvaise apparence. Le rez-de-chaussée, dans la rue de Dunkerque, était pris entièrement par un magasin d'antiquités. Le comte s'arrêta devant cette boutique, comme si les objets hétéroclites qui garnissaient la vitrine étaient susceptibles de l'intéresser. De fait, quelques instants plus tard, il pénétrait chez l'antiquaire, et on pouvait le voir de la rue en discussion avec le marchand, à propos d'une vieille petite horreur dorée qu'ils tournaient et retournaient dans leurs mains, en la faisant valoir autant que possible dans la pauvre lumière du jour. Puis les deux hommes s'enfoncèrent dans l'ombre de la boutique
et on ne les vit plus. Yo-Yo constata que la boutique était vide et en profita pour s'y glisser. Sitôt là-dedans, il devint invisible, rampant entre 100 objets divers. Il faisait corps avec l'ombre. La pièce avait beau être encombrée, il avançait sans rien déplacer, sans remuer un meuble, sans faire entendre un bruit. C'était toujours le pot rouge sur la piste de guerre. La porte de l'arrière-boutique était entr'ouverte. Les deux hommes se trouvaient encore dans cette petite pièce obscure, éclairée seulement par un vasistas donnant sur une cour. L'antiquaire allumait une petite lampe qu'il remit, sans mot dire, à Gorbio, puis il souleva une trappe et Gorbio, éclairé par sa lampe, descendit, sans mot dire, les premiers degrés d'un étroit escalier de cave. Comme il allait disparaître, il fit signe à l'antiquaire de regagner le magasin. Celui-ci obéit aussitôt et passa auprès de Yo-Yo. Ce marchand avait une figure patibulaire. Du premier coup d'œil, il déplut fort à Yo-Yo, mais celui-ci avait autre chose à faire que des études de physionomie. Il se glissa dans l'arrière-boutique et descendit l'escalier à quatre pattes, comme un chat. Son plan, du reste, était d'une simplicité sauvage. Si Gorbio, retournant la tête, s'apercevait de quoi que ce fût, il bondissait dessus comme un jaguar et l'étranglait avant qu'il eût le temps de soupirer. Mais Gorbio ne s'aperçut de rien. Il était tout à sa besogne, qui consistait à ouvrir une porte de cave fermée par une serrure de sûreté des plus compliquées. La porte ouverte, il la referma aussitôt sur lui. Tout ceci s'était passé en quelques secondes, et Yo-Yo était juste arrivé pour voir Gorbio ouvrir la porte et la refermer. Yo-Yo alla immédiatement coller son oreille contre cette porte. Il n'entendit que des bruits fort vagues, par exemple un bruit de chaînette remuée. Il resta là 5 minutes, au bout desquelles il se rejeta vivement dans l'encoignure de l'escalier, s'aplatissant sur le sol, la tête tournée vers l'apparition du comte, et toujours prêt au bondissement s'il était nécessaire. Mais Gorbio ne le vit pas plus en partant qu'il ne l'avait aperçu avant d'entrer dans le caveau. Il refermait tranquillement sa porte. Yo-Yo, dans l'ombre, eut un charmant sourire. Il venait de découvrir, au-dessus de la porte, une étroite ouverture dont il allait faire son profit. 1 minute plus tard, le comte était remonté et la trappe était rebaissée. Yo-Yo pouvait travailler en paix. Il avait du reste de l'ouvrage. Les objets que le comte cachait si inopinément dans cette cave devaient avoir à ses yeux une valeur peu ordinaire. Il fallait y pénétrer coûte que coûte. Négligeant la première porte et la première serrure, Yo-Yo s'élança d'un bond au-dessus de l'obstacle par le soupirail entr'ouvert et retomba devant une seconde porte et une seconde serrure des plus compliquées. Yo-Yo n'en vint à bout qu'en sciant le bois autour d'elle avec l'un de ses petits instruments de poche que la fréquentation de ses amis blancs de la Guyane lui avait appris à apprécier et dont les compagnons de Chéri-Bibi ne se séparaient guère, vu les nécessités de l'existence. Cela demanda du temps. Enfin, il pénétra dans la cave. Naturellement, Yo-Yo avait sa petite lampe électrique, comme il convient à un pot rouge qui n'ignore plus rien des bienfaits de la civilisation. Il fit le tour de la cave. Elle était assez profonde. Elle n'avait rien qui pût la distinguer de toute autre cave. Des objets de rebut, quelques planches pourries, un restant de poussière de charbon et une demi-douzaine de feuillettes et de barriques. 2 de ces barriques étaient encore pleines, ce dont put juger Yo-Yo en les déplaçant avec un gros effort. Yo-Yo déplaça tout. Yo-Yo chercha partout. Yo-Yo creusa partout. Il ne sentait ni la fatigue, ni la faim, ni la soif, ni le sommeil. Il sortit de là sans avoir rien trouvé. Il ne s'agissait pas seulement pour Yo-Yo de sortir de la cave, il fallait sortir de la boutique. Ceci lui demanda encore 1 demi-journée, mais il ne la regretta pas. Ayant soulevé la trappe et s'étant glissé dans le magasin,
il eut l'occasion d'entendre quelques bouts de conversation des plus intéressants entre l'antiquaire et ses singuliers clients. Il en venait là de toutes sortes et qui semblait appartenir à toutes les classes de la société. Mais qu'ils fussent mis comme les derniers des marchands de bric-à-brac ou comme de nouveaux riches en quête de meubles anciens, ils avaient ceci de commun qu'après quelques secondes de discussion sur le prix des objets en litige, ils baissaient le ton pour parler immédiatement d'autre chose. Généralement, c'était le marchand d'antiquité lui-même qui les mettait à leur aise d'un mot. « Ça va, tu peux y aller, il n'y a personne dans la boutique. » Et le client y allait. Il apportait le plus souvent un pli qui l'accompagnait de certaines recommandations. Il perçut aussi des questions auxquelles cet excellent monsieur Punaise, c'est ainsi que les habitués dénommaient l'honnête boutiquier, répondait ou ne répondait pas à sa fantaisie. On s'entretenait du numéro 1. Le numéro 1 est-il arrivé? Quand reverra-t-on le numéro 1? Il y a des choses que je ne puis dire qu'au numéro 1. Je vais être obligé de m'appuyer le voyage si le numéro 1 tarde à revenir. D'où Yo-Yo concluait sans difficulté que le numéro 1 ne pouvait être que le comte de Gorbio lui-même. Il était aussi question de la dame, et Yo-Yo sut, de toute évidence, de quelle dame il s'agissait. Quant à Monsieur Punaise, tantôt il avouait que le comte était à Paris, tantôt il jurait qu'il ne s'y trouvait pas. Il devait avoir toute la confiance du patron et tenir dans la maison de commerce Gorbio, Nina Noah et compagnie un rôle des plus considérables. L'affaire paraissait monter avec une rare intelligence. D'abord, le fait d'avoir choisi comme lieu de truchement, comme point de bifurcation de leur organisation, un magasin d'antiquités, prouvait que ces gens-là avaient pensé à tout. N'importe qui peut passer la porte d'une boutique de bric-à-brac. On n'était pas plus étonné de voir entrer chez Monsieur Punaise une casquette qu'un chapeau haut de forme. Yo-Yo croyait n'avoir plus rien à apprendre chez Monsieur Punaise et se disposait à profiter de l'inattention de l'antiquaire et de l'occasion de la porte entr'ouverte pour fuir enfin une maison où il pensait bien revenir quand il aurait apaisé la faim qui depuis 2 jours lui tenaillait les entrailles. Déjà, dans l'ombre de la nuit commençante, il avait glissé sur ses 4 pattes, quand il remarqua les allées et venues d'une 12 de jeunes personnages de mauvaise mine qui passaient devant la boutique, y jetaient un coup d'œil, puis pénétraient chez le bistrot qui faisait l'angle de l'immeuble. Yo-Yo ne fut pas longtemps sans se rendre compte de l'intérêt que l'antiquaire prenait derrière ses vitres aux manières de ces messieurs. La nuit étant tout à fait tombée, le Peau-Rouge put sortir sans être aperçu de la boutique. Mais, rendu de plus en plus curieux par ses manigances, il n'eut garde de s'éloigner. Aussi, sous le porche qui servait d'entrée à la cour de cette maison vétuste, put-il assister au colloque rapide de M. Punaise avec l'un de ces messieurs apaches, qui, après être entré chez le bistrot, en était ressorti presque aussitôt. Du peu que Yo-Yo put entendre, il y avait à conclure, sans aucun doute, que le magasin d'antiquité entretenait les meilleures relations avec le cabaret interlope du coin de la rue de Dunkerque. Yo-Yo n'hésita pas. Quand ces messieurs se séparèrent et que l'antiquaire eut fermé sa boutique, le Peau-Rouge suivit la page dans le cabaret. Si l'on n'a pas oublié le régime qu'il subissait depuis plus de 2 jours, on comprendra que Yo-Yo ne payait pas de mine. Ses vêtements déchirés, un linge sans couleur, ses joues creuses, ses yeux brillants, sa chevelure pendante et l'immense fatigue de tout son pauvre être épuisé le classait, dès la première vue, parmi les plus lamentables déchets de l'humanité. Son entrée dans ce milieu spécial, constitué plus particulièrement par des sujets qui avaient eu des malheurs, n'éveilla donc aucune méfiance. Nous serons plus près de la vérité en indiquant qu'elle souleva même quelque intérêt.
Yo-Yo eût difficilement expliqué son délabrement physique s'il avait sorti les billets dont sa poche était pleine. Il déclara donc qu'il n'avait pas le sou, qu'il mourait de faim et de soif, et que son âme était à vendre pour un morceau de pain et deux doigts de pinard. En d'autres temps, il avait des chances, avec un tel discours, de se faire jeter à la porte. Mais il arrivait dans un moment où ces messieurs racolaient, pour une besogne qui restait inexpliquée, les hommes de bonne volonté. Le patron, un gros pépère, tout reluisant de graisse, aux épaules carrées, aux biceps noueux sous les manches de la chemise retroussée, fut aux petits soins pour Yo-Yo. Il le confessa, tout en répandant sur lui ses bienfaits. Il avait deviné en lui un Américain du Sud, un Argentin qui avait fait un sale coup. Yo-Yo ne le démentit point. À minuit, Yo-Yo, restauré, faisait partie de la bande et trinquait joyeusement avec ses nouveaux compagnons.